Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Nous allons parler de la reprise du phénomène Kuluna. Quelles sont les causes et solutions? Professeur Gauthier Mousseng est sociologue, sera de la partie. Et puis nous allons également recevoir le professeur Lapika Dionfoumou, socio-anthropologue. Des questions et préoccupations, appelées au 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous parlons de la reprise du phénomène Kuluna, cause et solution, mais bien avant cela, vous savez, Radio Okapi vient de totaliser ses 20 ans d'existence, les messages continuent à pleuvoir par rapport à ces 20 ans de Radio Okapi. Tout à l'heure, nous allons suivre le message du docteur Mbakata qui s'est exprimé sur les 20 ans de Radio Okapi, et on va suivre également le message de Jean de la Paix Mbangu, qui est le directeur de la radio communautaire libre de Kolwezi. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'abord de suivre ce message du docteur Mbakata, qui s'est exprimé sur les 20 ans de Radio Okapi.
Docteur Freddy Mbakata, actuellement je suis député national. Vous savez que je suis le fondateur de l'ONG Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Et Radio Okapi m'inspire beaucoup, me dit beaucoup de choses. Après mes études aux États-Unis, je venais de rentrer au pays en 1994. Et j'étais à l'est dans des camps de réfugiés quand l'AFDEL est venu. Les camps ont été dispersés, les réfugiés ont fui, la quasi-totalité est rentrée au Rwanda, mais beaucoup ont fui dans des forêts congolaises. Et au niveau de notre organisation, de l'ONG, on était chargé par le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de sensibiliser ces réfugiés dans des forêts congolaises, de les accueillir au centre de transit dans la ville de Bukavu, et de les retourner au Rwanda, de concert avec les ACR du Rwanda. Et pendant cette grande activité où nos agents allaient dans des forêts, Radio Okapi nous a très beaucoup, beaucoup aidés. Et moi, personnellement, j'ai connu Radio Okapi un jour à Bukavu. Le soir, j'ai vu un attroupement de jeunes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous attendons, nous allons écouter la Radio Okapi. Mais c'est quoi Radio Okapi? Je ne connaissais pas. Ils m'ont expliqué que c'est une radio des Nations Unies qui venait de naître et qui a une émission qui était très populaire à l'époque, Dialogue entre Congolais.
Entre Congolais, oui.
Oui, parce qu'ils voulaient savoir ce qui s'est passé à San City, ils voulaient connaître les nouvelles de grandes rébellions, parce que le pays était morcelé à l'époque, comme vous le savez, les nouvelles. Et moi, j'en ai saisi l'occasion, j'en ai parlé au niveau de notre ONG, parce que j'ai compris que la radio Okapi diffusait aussi à l'intention des réfugiés rwandais, et il y avait des missions qui étaient diffusées en Kinarwanda. Ça nous a beaucoup, beaucoup facilité la tâche, et même quand nos agents allaient dans la forêt, ils disaient, ils demandaient aux réfugiés d'avoir des petites radios, ils en avaient pour la plupart, de suivre
l'émission Gutaouka à l'époque.
Voilà. Donc, quand on dit que Radio Okapi a dit, Radio Okapi a informé, c'est fini, la discussion prenait fin. C'est une vérité parce que c'est sorti de Radio Okapi. Bon, au lieu de dire surtout mes souhaits, c'est la crainte que j'ai. Avec ce que vous avez fait, vous êtes devenu un besoin consommable. La population congolaise, dans la quasi-totalité, vous consomme chaque jour. Et ma crainte, c'est de voir ce que la Radio Okapi va devenir après la MONUSCO. Le seul message que j'ai, c'est d'abord de vous féliciter. Donc, continuez avec ce professionnalisme, continuez à nous informer, à nous nourrir, parce que, comme je l'ai dit, vous faites désormais partie de notre vie active.
à Bukavu,
Okapi,
sur 95.3 FM.
Okapi.
C'est depuis beaucoup d'années que la radio communautaire libre fait le relais des programmes de radio Okapi. Quand on avait lancé le premier signal à Kolwezi, cela a beaucoup égayé, avait beaucoup égayé la population de Kolwezi. Et depuis lors, de bonnes émissions d'éducation, notamment au Capi Service, qui est vraiment très bien suivi ici dans la ville de Kolwezi. Et nous avons dialogue entre Congolais et beaucoup plus aussi aux éditions du journal qui permettent à ce que beaucoup de gens ici à Kolwezi suivent la radio. Alors, au-delà des informations et des faits que la radio au Capi produit, nous, comme radio communautaire libre, nous avons eu, il y a eu un réseau de correspondants qui avait été déjà mis en place, et ce réseau a beaucoup aidé nos radios, grâce bien sûr à Radio Okapi, l'encadrement de Radio Okapi. Les informations de Kolwezi étaient aussi entendues au niveau national et international à travers la Radio Okapi, ce qui nous faisait aussi valoriser comme radio communautaire, parce que la plupart des gens maintenant localement devraient attirer aussi plus d'attention sur nos journalistes. Et aussi, ça a été une façon pour nos journalistes d'être aussi entendus, de travailler, de collaborer avec des grands journalistes comme vous autres, Hakim. Et comme la plupart des journalistes suivent la radio Okapi comme modèle, et ça a été très important que ces jeunes suivent le modèle de radio Okapi. Et aujourd'hui, nous avons quand même des journalistes à Kolwezi qui peuvent dire un mot et être entendus. Radio Okapi a permis aussi à nos radios, à nos journalistes de participer au débat de chaque vendredi. Ça permet aussi à nos journalistes de se fortifier, ça permet à nos journalistes de se documenter davantage, et ça fait en sorte que nos journalistes soient aussi à la une et puissent être en mesure de discuter des questions politiques, de débattre des questions d'actualité dans la ville. Donc tous ces éléments font que nous avons beaucoup d'espoir, nous avons fondé beaucoup d'espoir sur Radio Okapi, une radio qui, selon moi, est le relais et le reflet des radios communautaires libres. Il n'y a pas que RCL Kolwezi, il y a toutes les radios communautaires à travers les différents territoires qui ont été connues grâce aussi à la Radio Okapi. Personnellement, nous avions reçu la formation en conception et évolution de la grille de programme avec William Moss, qui était venu de la radio Okapi. Donc tout ce partenariat nous a beaucoup édifiés, beaucoup consolidés. Grâce à Radio Okapi et à ce partenariat, aujourd'hui, nos radios sont des radios viables, fiables, et sont des radios aussi qui sont respectées. Donc Radio Okapi, pour nous, est une grande école, un grand partenaire, c'est aussi un moyen d'épanouissement de nos radios. Et c'est comme ça que nous ne pouvons que souhaiter une très longue vie à cette chaîne de la paix. Et peut-être que vous ne le savez pas, nous, au niveau des réseaux de radio communautaire, avec mes amis de Kisangani et ailleurs, nous étions à Kindu, je me rappelle, une fois comme ça, et nous réfléchissions déjà sur le devenir de Radio Okapi. Que deviendrait Radio Okapi après le départ de la MONUSCO? Quand la Radio Okapi se pérennise, nos radios aussi se pérenniseront davantage et deviendront de plus en plus fiables et viables. Merci et bon anniversaire à tous.
Bien, c'était là les réactions de... du docteur Freddy Mbakata, et qui est député national, et de Jean Delapelle, le directeur de la radio communautaire libre de Kolwezi, par rapport aux 20 ans des radios Okapi. Nous avons en ligne le professeur Gauthier Moussengue, sociologue. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Et voilà, en passant, Okapi vient de totaliser les 20 ans. Votre réaction ou vos souhaits, professeur?
Oui, je suis content de l'expérience que nous avons eue de la radio Okapi, qui nous a bien informés sur beaucoup de choses au pays. Nous avons appris, nous apprenions tout ce qui se passait au pays, même à l'intérieur, au fond du pays, grâce à la radio Okapi. Je souhaite que ça soit plus qu'avant, que la radio Okapi soit très ponctuelle avec les actualités et continue toujours à nous informer de tout ce qui se passe au pays, mais souvent la radio Okapi parle moins de la politique du pays, alors que c'est ce qui est saillant dans notre pays, on comprend, mais que la radio Okapi accepte de nous donner toutes les informations dans tous les domaines possibles.
Bien, merci professeur. Alors, à présent, nous allons parler du phénomène Kuluna qui reprend le poil de la bête. Ce phénomène refait surface dans plusieurs communes de Kinshasa, au grand désarroi des paisibles citoyens. Dans certains quartiers ou communes, les bagarres à la machette ont repris entre les gangs des différentes communes. Les bourgmestres sont impuissants et ne savent pas comment gérer ces phénomènes. Alors, professeur, d'après vous, qu'est-ce qui explique ce retour en force du phénomène Kuluna dans les quartiers populaires de Kinshasa particulièrement?
Je vous remercie, mais souvent, vous savez, il y a un professeur qui s'est spécialisé en cette matière-là. C'est le professeur Kenge Kenge de la faculté de droit. Je pense que chaque fois que vous parlerez de Kuluna, vous pouvez vous référer aussi à lui, parce que c'est parmi les professeurs rares de la faculté de droit qui font le terrain. Nombreux d'affaires de droit font leurs études sur des études livresques, mais lui fait vraiment le terrain. Donc, le phénomène Kuluna, dans notre pays, c'est un problème qui est lié à la sécurité urbaine et aussi à la pauvreté dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. C'est normal que la situation de Kuluna, que le phénomène Kuluna s'aggrave de plus en plus parce que ça fait voir le bilan du pays. C'est parce que la pauvreté s'aggrave aussi de plus en plus que le phénomène Kuluna s'aggrave. Parce que ces jeunes gens-là ne travaillent pas. Ils ne trouvent pas du travail et ils vivent difficilement. Ils ne savent pas manger, ils ne savent pas dormir, ainsi de suite. Ils vivent pas dans de bonnes conditions et ça crée une certaine jalousie vis-à-vis de ceux qui travaillent, vis-à-vis de ceux qui mangent quand même. Alors, ce qui fait que ces jeunes gens-là se révoltent vis-à-vis d'eux et créent le banditisme, créent la violence vis-à-vis des autres. Donc, si le gouvernement était vraiment responsable, on devait bien s'en occuper. Donc, bref, pour répondre à ta question, l'aggravation du phénomène Kuluna montre le tableau de la situation sociale de notre pays. Donc, c'est l'aggravation de la pauvreté qui entraîne aussi l'aggravation du phénomène Kuluna.
Bien, à l'époque, lorsqu'il y avait eu une opération, je crois opération Likofi, on a assisté à ces phénomènes, avaient pratiquement pris fin, tous les Kuluna étaient en cavale, on n'entendait plus parler de ça, mais aujourd'hui, ils reviennent des forces. Donc, on peut dire que c'est toujours la pauvreté qui aggrave, qui est à la base.
Oui, parce que à ce moment-là, la situation s'est calmée, parce que il y a eu un contrôle sévère. Et ce contrôle a fait que les autres puissent bien, que les Kuluna puissent bien se cacher, ne puissent pas paraître. Et maintenant qu'il n'y a plus de contrôle. Et puis, ils n'ont pas arrêté tous les Kuluna. Ils n'ont pas arrêté tous les Kuluna. Nombreux ont fui, nombreux se sont cachés. Et les Kuluna recrutent aussi. Et ce recrutement est lié à la situation de pauvreté. Quand un Kuluna va convaincre un jeune homme du quartier qui a une vie difficile, qui est, par exemple, un chégué, qui dort dans la rue, qui vit dans la rue. Mais il va se lancer parce qu'il va lui dire, tu vas bien manger, nous allons faire la violence, nous allons t'entraîner et on aura l'argent pour toi, tu vas bien manger, tu vas acheter quelque chose pour t'habiller, ainsi de suite. Mais il ne pourra que faire ça parce que le chômage s'aggrave de plus. Ces jeunes gens-là ne trouvent pas du travail. Comme le chômage s'aggrave de plus en plus.
Professeur, il y a un auditeur qui nous dit qu'il n'y a pas que le chômage ou la pauvreté. C'est aussi un problème de la faiblesse du pouvoir public. Parce qu'à l'époque, les Kuluna avaient peur d'un général, Kanyama, par exemple. Mais quand ils sentent qu'il n'y a pas une autorité qui s'impose, alors ils font ce qu'ils veulent.
Oui, mais dans tout ça, c'est toujours le pouvoir public qui est à la base de ça. Dans tout ça, parce que c'est le pouvoir public qui organise la vie des citoyens. Donc, le pouvoir public est irresponsable sur beaucoup de points. Ce qui fait que les gens maintenant cherchent la vie par tous les moyens. On crée l'insécurité pour vivre. Le but de Kuluna, c'est quoi? Mais c'est attaquer quelqu'un pour avoir l'argent et cet argent va lui permettre de manger. Le Kuluna n'attaque pas les gens par plaisir. Non, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par prestige. Donc le Kuluna attaque pour trouver, pour la survie. Donc ce sont des menaces pour la survie. C'est comme ça que le Kuluna attaque. Donc, et il y a aussi un laisser-aller, il y a un laisser-faire vis-à-vis du pouvoir public. Bon, c'est comme ça que le phénomène réapparaît. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur parce que la situation sociale est difficile, parce que les gens ne trouvent pas de travail, parce que le pouvoir public n'assure pas la sécurité. Il y a un laisser-aller, il y a un laisser-faire.
Et qu'est-ce qui explique ce recours aux armes blanches, à la machette en l'occurrence, pour arracher les biens ou pour se battre avec les autres?
Oui, c'est ça, parce que comme ils font la violence, c'est un moyen de violence, comme ils n'ont pas d'armes. La machette, c'est aussi une arme, c'est une arme blanche, donc ils recourent à la machette pour avoir la force, pour savoir dominer les autres, pour faire la terreur aux autres, et puis trouver solution, ça signifie confisquer les biens qu'ils ont, et puis donc pour la survie, donc pour leur survie, c'est ça le problème.
Voilà, nous savons que avec ces machettes, ils ont coupé les bras, les doigts de certaines personnes.
Oui,
ils ont même
oui.
tué à l'époque. Aujourd'hui, le retour de ce phénomène constitue une menace pour les paisibles citoyens.
Oui, c'est une menace, c'est une insécurité totale. Donc, ça, à ce moment-là, nous faisons, nous rappelons au pouvoir public de s'assumer, d'assurer sa responsabilité, qui est celle d'assurer la sécurité des citoyens. Donc le pouvoir public doit obligatoirement s'intéresser à ça, doit prendre conscience de ce problème-là et puis chercher à résoudre. Mais on ne doit pas résoudre. Il ne suffit pas seulement d'arrêter les Kuluna pour les amener à Kanyamaka. Ça ne suffit pas. Parce que le pouvoir public doit chercher à savoir pourquoi le phénomène Kuluna. Pour preuve, ils ont arrêté beaucoup de gens, les amener à Kanyamaka, mais on est revenu à la case du départ. Donc on ne sait pas trouver pourquoi on ne sait pas éradiquer ce phénomène parce que la solution est superficielle. Donc la solution n'est pas profonde. Donc on voit seulement, on arrête ceux qu'on peut arrêter et puis on les amène à Kanyamaka CC. Alors qu'on n'arrête pas tout le monde et les autres recrutent parce que il y a un problème. Donc le pouvoir public doit étudier le phénomène Kuluna en profondeur, et il y a des gens qui ont déjà mené des études sur ça. Le pouvoir public doit s'intéresser à ça et chercher maintenant à trouver une solution profonde, une fois pour toutes, pour mettre fin au phénomène Kuluna. Donc si on doit seulement se contenter à arrêter le Kuluna et puis les amener à Kanyamaka, c'est rien, c'est superficiel, et on va toujours continuer à avoir le Kuluna au pays.
Mais Kanyamaka CC, au moins ils vont cultiver la terre et puis produire le maïs.
Oui, c'est une main d'œuvre importante. Mais le problème n'est pas résolu. C'est ça, non. Ici, la situation, c'est de résoudre le problème de Kuluna pour que cela ne revienne plus au pays. Ce n'est pas seulement trouver la main d'œuvre pour amener à Kanyamaka CC. Il suffit d'ailleurs à Kanyamaka, on n'a pas besoin de recruter, de prendre le Kuluna pour les amener. Il suffit seulement qu'on lance un communiqué pour que les gens s'inscrivent, aller travailler à Kanyamaka. Ils auront toujours la main d'œuvre parce qu'elle est toujours importante dans notre pays. Mais le pouvoir public doit étudier le phénomène Kuluna, savoir pourquoi ce phénomène et pourquoi la recrudescence de ce phénomène. Pourquoi elle se termine pas? Pourquoi on n'arrive pas à l'éradiquer? Et comme ça, pour mettre fin à ça, ça signifie trouver des solutions profondes et non ce qui est superficiel.
Voilà, professeur, certains disent si ces jeunes gens arrivent à tuer ou à blesser les gens, c'est parce qu'ils sont, c'est des jeunes gens désœuvrés qui prennent la drogue ou qui se saoulent, qui prennent des whisky à longueur de journée et voilà, donc c'est ce qui les pousse à la criminalité.
Oui, Oui, mais c'est ça. C'est, ils doivent se droguer pour bien attaquer les gens. Donc sans drogue, on risque de ne pas commettre les dégâts. On aura peur de lancer, de jeter la machette sur un individu. On aura peur de quelqu'un parce qu'il est gros, il est grand. Mais sous les effets de drogue, on réagit sans contrôle. On a peur de personne. C'est ça. Donc ces jeunes gens-là, ils utilisent les armes blanches, la machette. Ils se font droguer. Et comme ça, ils commettent des dégâts sans pitié, sans contrôle. Et voilà, c'est ça qui crée des problèmes au pays. Ça crée une insécurité totale, vraiment totale. On ne sait pas se mouvoir de tout le temps. La nuit surtout, c'est une insécurité totale. Même la journée de fois, ils mènent des attaques. C'est vraiment une insécurité totale.
Alors, professeur, on peut dire aujourd'hui que c'est il y a une autre génération des Kulunas qui vient de voir jour. Ce sont les jeunes gens, la nouvelle génération qui sont maintenant recrutés et qui.
Je pense que ce n'est pas en termes de génération. C'est toujours la succession. C'est la succession du même phénomène. Parce que vous parlez des générations, c'est parce qu'il y a eu. Il y a eu un arrêt à un moment donné, il s'est manifesté pas parce qu'il y a eu, parce que la police a fait la chasse aux Kulunas. Mais ce sont les mêmes personnes parce qu'on n'a pas su attraper tout le monde. Donc il y a eu des gens qui se sont protégés, qui se sont sauvés, et ces gens-là recrutent aussi. Ce n'est pas en termes de génération, c'est toujours la succession de, ce sont les mêmes personnes, et les autres s'ajoutent. On parlerait des générations peut-être au cas où cette étape-là était finie et puis ils sont partis. Maintenant, c'est une renaissance de Kuluna, donc avec des autres personnes, peut-être avec autre méthode, autre moyen. Non, alors qu'ici, nous avons les mêmes personnes qui se sont éclipsées à un moment donné, puisqu'ils reviennent, qui continuent avec les mêmes méthodes, qui continuent avec les mêmes moyens. Donc, c'est toujours le même phénomène Kuluna qui continue.
Bien. Alors, quels sont qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Vous avez dit Kanyamaka, c'est pas vraiment la solution. Mais d'après vous, c'est quoi la solution durable?
La solution durable est que d'abord, le pouvoir public doit financer des études pour savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, pourquoi le phénomène Kuluna. Mais par rapport aux études antérieures, nous pouvons dire que c'est la situation sociale du pays qui crée le phénomène Kuluna. Les gens ne mangent pas, les gens ne savent pas vivre, les gens ne savent pas dormir, les gens ne travaillent pas. Surtout, c'est le chômage qui est à la base de Kuluna. Et le chômage entraîne une crise. Ça entraîne des révoltes. Parce que quand on chôme, on ne sait pas travailler, on ne sait pas. Quand on ne travaille pas, on ne sait pas avoir des moyens pour assurer la survie. Et ça crée une certaine jalousie de ceux qui ne travaillent pas par rapport à ceux qui travaillent, et c'est cette jalousie-là qui est à la base du phénomène Kuluna. Donc, le pouvoir public doit organiser le pays pour assurer, pour créer du travail aux citoyens, et le pouvoir public doit assurer la sécurité de la population. Le pouvoir public doit utiliser tous les moyens possibles pour créer l'emploi et puis avoir une politique sociale importante pour que ceux qui travaillent, parce que même parmi ceux qui travaillent, on trouve aussi des enfants de Kuluna, parce que leur revenu ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, il faut que le pouvoir public ait une politique sociale importante, réaliste, pour remonter le niveau de vie de la population et puis créer du travail pour que les gens qui sont en chômage y travaillent. Sinon, les élèves qui terminent, qui ont le diplôme et qui chôment deviennent aussi Kuluna parce qu'ils sont jaloux des autres qui travaillent, alors ça pose trop de problèmes. Voilà ce que je peux proposer comme solution. Donc, le pouvoir public doit vraiment assurer la sécurité du citoyen. C'est-à-dire de manière brève.
Bien, nous parlons de la reprise du phénomène Kuluna. Quelles sont les causes et solutions? Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Reprise du phénomène Kuluna, quelles sont les causes et solutions? Justin Koulou, vous êtes à Fongourou, mais Charles Kisimba à Lubumbashi. Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je veux toutefois à notre invité, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, que c'est la pauvreté qui enfonce et qui pousse nos jeunes gens à se lancer dans le système Kuluna. Parce que si nous analysons bien, la pauvreté du Congo, c'est depuis le début et l'indépendance. Après l'indépendance, le pays s'est tombé dans le chaos après 5 jours. Il n'y avait pas de Kuluna. Et les Kuluna, par exemple, typiquement d'abord ici chez nous à Fungurume, nous avons remarqué ce système à partir de 2011, ça a commencé à s'empirer en 2015, même à nos jours. Si nous analysons les faits, pourquoi ces gens se lancent dans ces histoires, ce n'est pas la pauvreté qui les pousse de faire. Donc c'est l'incapacité de bien gérer les paysans par les services de sécurité. Si à l'occurrence on peut citer l'armée et la police, l'ANR, et il y a même ici chez nous le système qu'on appelle bureau 2, ils sont échoués puisqu'ils ne savent même pas mettre la main à un seul Kuluna ici chez nous. Alors, si nous voulons éradiquer ça, parmi mes propositions que je vais donner à la Radio Capi, à chaque cas de ces inciviques, donc les retombées sera, si on amenait ces retombées au gouvernement, soit la police, les sociétés, les services de la sécurité, on va les châtier et payer même les indemnités. Ils se mettront convenablement au travail pour éradiquer cette situation. Si ceci se passe toujours dans ces histoires, on vole, il y a les gens de sécurité qui passent en pèlerinage à tour de rôle, demander on a volé quoi et on a tué qui, et ils rentrent et c'est fini, ce système ne prendra pas fin. Je vais terminer, monsieur Jody, en vous donnant l'exemple. Si je suis le père de la maison, je remarque que parmi mes enfants, il y a un voleur. C'est à lui que je dois donner la responsabilité. Et celui-là, quand je trouve quelque chose qui est volé dans ma maison, et directement, il n'y a pas à demander. Alors, nous avons les gens de la sécurité ici chez nous, mais il y a des bévues qui se passent chaque jour. Et leurs autorités aussi, soit sur l'auditorat, ne se penchent pas à faire minutieusement les études pour arriver à dénicher celui qui a fait. Ils ont des armes à feu. Si on passait même à la perquisition, on pouvait trouver beaucoup d'armes ici à Fungurume. Mais il y a des barrières par-ci, par-là. En entrant à Fungurume, il y a des barrières. Il y a des contrôles qui se font uniquement que pour les minerais, mais la vie des gens, des paisibles citoyens ne les intéresse pas. Alors, si on arrivait à bien, je demande à l'État de se décharger lourdement pour ces agents de la sécurité. Ils savent que faire la sécurité pour les minerais, nos propres minerais, et il y a même des cribles de balles. On tire à bout portant quelqu'un qui part chercher les minerais. Mais un brigand qui fait en dehors les hommes, ils ne disent rien. Alors, si c'est le sang là versé sera au-dessus des deux personnes que je ne peux pas citer dans vos chaînes de radio. Que ce sont eux qui sont les principaux instigateurs pour nous plonger dans ce grand chaos. Merci, M. Jody.
Bien. Et je vous remercie. Merci, Justin Nkoulou de Fungurume. Charles Kisimba de Lubumbashi, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à l'invité. En tout cas, j'ai salué vivement la réaction et Justin pour la partie de Fungurume. Pour le professeur, moi, je pense que il est en train plutôt de donner les raisons classiques comme celles que donnerait un professeur en criminologie, par exemple, ce qui est à la base de toute criminalité, universellement parlant. Alors, au contexte congolais, ce n'est ni médiocrité, ce n'est ni chômage, ce n'est ni chanvre, monsieur Jody, parce que les chanvres, ça se consomme partout au monde. Les Occidentaux, voulais-je dire, en ont même part du lion. Alors, ici chez nous, nous connaissons très bien que ce qui motive les Kuluna, les Madiambazi, comme on les appelle ici, à Lumbashi, en Swahili, ils sont des vraies cartes. Ce sont des pions majeurs des gouvernements, de ceux-là qui nous dirigent. Pourquoi? Comment nous pouvons expliquer? À chaque veille des élections, il y a toujours des bruits pareils. Si on est encore très loin des élections, vous n'allez pas entendre cela dans nos médias. Mais c'est plutôt à chaque approche des élections que nos oreilles souffrent. Alors, pour les professeurs, comme je le disais encore, tout ce qu'il a dit, ce sont des raisons classiques. Il n'y a pas aucun lien avec ce qui se passe dans ces pays ici. Ce sont des vrais chouchous, ils sont bien financés, ils sont très bien équipés par les politiciens congolais. Voilà un peu à mon sens.
Bien, merci. Professeur Gauthier Moussengue.
Oui, le premier intervenant a incriminé la police. Il a parlé des bureaux 2 qui sont à la base du phénomène Kuluna. Non. La police,
il dit que la police, l'armée et les services de sécurité ne répriment pas suffisamment ces gens.
Oui, mais ce ne sont pas eux qui créent le phénomène Kuluna. Il est vrai que il y a un certain laxisme, il y a une certaine irresponsabilité de fois vis-à-vis de la police qui laisse faire. Ça c'est vrai, ça on le reconnaît. Mais ce n'est pas la police qui est à la base qui crée le phénomène Kuluna. Non. L'autre ici, le second ici, je ne sais plus de quoi est-ce qu'il a parlé là encore.
Oui, il a dit pourquoi c'est toujours à l'approche des élections qu'on voit la résurrection Kuluna.
Oui,
est-ce que c'est pas à des fins politiques?
J'ai compris. Il est vrai que il y a des politiciens qui utilisent le Kuluna. Les politiciens utilisent le Kuluna pour se défendre, pour se protéger, pour créer l'insécurité à leur faveur. Ça signifie que cette insécurité leur permet de bourrer des urnes. Il y a eu beaucoup de régularités, nous savons bien. On a décrié, même vous, la radio Okapi a montré, a décrié des bourrages des urnes, ainsi de suite. Tout ça, on utilisait le Kuluna. C'est vrai. Il y a des gens qui utilisent le Kuluna. Même les responsables, même les gouvernants utilisent aussi le Kuluna pour certaines raisons. Donc, mais ce qui est plus important dans le phénomène Kuluna, c'est l'éradication de ce phénomène. Bien que le pouvoir public de fois utilise le Kuluna pour résoudre leurs problèmes, pendant les élections surtout, comme l'autre l'a dit, la police laisse faire. Mais ce qui est important, c'est éradiquer ce phénomène Kuluna. Et pour l'éradiquer, il faut qu'on mène une étude profonde pour savoir les causes profondes du phénomène Kuluna et mettre fin à ce phénomène, résoudre ce problème. Ce n'est pas, mais on doit aussi condamner les gens qui utilisent le Kuluna pour résoudre leurs problèmes. Parce que ça, il n'est pas normal que les gouvernants qui gèrent le pays peuvent encore utiliser les gens qui sont décriés de tout le monde. Ce n'est pas intéressant. C'est une façon d'encourager encore ce phénomène-là. C'est ce qui fait qu'il y a encore des recrues et il y a des gens, il y a des Kuluna qui trouvent plaisir pour mener leurs actions. Il y a un laisser-faire, il y a un laisser-aller. Donc on peut dire qu'il y a une certaine complicité vis-à-vis du pouvoir public qui doit en principe assurer la sécurité de la population. Et ça, on ne peut pas accepter. C'est vraiment inacceptable. Il faut que le pouvoir public prenne ses responsabilités pour mettre fin au phénomène Corona.
Bien, merci professeur Gauthier Moussengue. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la reprise du phénomène Kuluna. À la prochaine.
Merci, au revoir, monsieur le journaliste.
Radio Okapi.
À Bukavu.
Okapi.
Sur 95.3 FM.
Okapi.
Bien, nous parlons aujourd'hui du phénomène Kuluna, la reprise du phénomène Kuluna. Qu'est-ce qui est à la base et comment y mettre fin? Professeur Adelard Kwanzaka, vous êtes aussi sociologue, bonjour.
Bonjour.
On assiste actuellement à la reprise du phénomène Kuluna dans les quartiers. Les jeunes gens armés des machettes reprennent leurs activités, ils arrachent téléphones, ils se battent et ils font beaucoup d'autres choses. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance du phénomène Kuluna?
Bon, monter en puissance, je peux dire que c'est la reprise, hein, parce que en fait, ce phénomène existe depuis quelques années. Et le professeur Gauthier Moussengue, que je viens de suivre tout à l'heure, vous a donné quelques causes politiques. En fait, l'instrumentalisation d'une jeunesse aux abois, une jeunesse
désœuvrée,
qui a perdu des repères et qu'on a recruté, n'est-ce pas, par quelques hommes politiques en mal de positionnement pour les aider à agir. Et ça, c'est vraiment... Je ne vais pas y revenir parce que professeur Moussengue Gauthier, qui vient de parler tout à l'heure, a longuement expliqué. Je voudrais plutôt, moi, revenir sur des causes vraiment d'ordre social. Des causes sociales qui sont à la base de ce phénomène. Et donc, c'est d'abord l'agilité des jeunes, comme j'ai dit, c'est le désengagement des parents qui alimente cette l'agilité des jeunes. Donc, les jeunes n'ont pas du travail. Il y en a qui n'ont pas étudié parce que les parents n'ont pas été capables de le prendre en charge, de le mettre à l'école ou bien de leur faire apprendre un métier. Donc, il y a d'abord le désengagement des parents. Ou un désengagement parfois involontaire, hein, parce que eux-mêmes, les parents ont des problèmes de survie. Il y a aussi, le désengagement de l'État également, parce que ces jeunes gens, il y a quelques années, disons pendant la colonisation, les jeunes gens qui erraient la nuit ou de jour comme de nuit sans raison étaient récupérés par la police. On les envoyait, n'est-ce pas, dans les centres de rééducation, de resocialisation, surtout ceux qui erraient la nuit, et sans accompagnement d'un adulte. Donc, c'est aussi une des causes qui explique ce phénomène Kuluna. Et à cela, donc, toutes ces causes débouchent sur la pauvreté, une pauvreté absolue, qui fait que les gens n'ont pas à manger, ils cherchent à manger par des voies de facilité, en agressant, en arrachant, n'est-ce pas, à ceux qui en ont et qui trouvent que peut-être c'est la cause de leur malheur. Ils leur arrachent ce qu'ils peuvent pour manger. Mais il y a aussi le fait que, toujours en rapport avec les parents, ces enfants qui naissent sans planification et on a des enfants sans savoir comment on va les gérer, comment on va les socialiser. Et ici, généralement, il y a ces enfants que moi j'appelle des oiselets, des enfants des oiseaux. Dans le sens que souvent on vous dit, non, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Alors les enfants qui sont là, qu'on met au monde aussi, on croit qu'on les compare aux oiseaux, et sans éducation, sans quoi que ce soit, ils vont manger. Donc, il y a ce problème de naissance inopportune, sans planification, sans qu'on sache comment on va prendre ces enfants en charge, comment on va les socialiser.
Professeur Kwanzaka, parlons des solutions. Je me souviens, entre 2013-2014, le gouvernement avait lancé l'opération Likofi. Les éléments de la police ont tué sommairement une cinquantaine de jeunes Kuluna, ce qui avait mis complètement fin à ce phénomène. Et après, il y a eu, on arrête les Kuluna, on les envoie à Kanyama-Kassissé pour aller travailler les champs et puis produire le maïs. D'après vous, quelle est la solution, quelles sont les solutions durables à mettre en place pour endiguer ce phénomène?
Les solutions durables doivent être d'abord des solutions préventives. Des solutions préventives, si on ne veut pas qu'il y ait des tournées dans 5, 6, 10 ans, il faut déjà commencer à investir dans la prévention. C'est-à-dire que l'une des préventions, c'est d'abord la consolidation de la vie familiale. Et c'est-à-dire que les parents qu'on va... ceux qui auront des enfants demain, ils doivent être capables de les assurer. Donc, consolider dès le départ la vie familiale, améliorer les conditions de vie des parents pour que ceux qui vont avoir des enfants puissent les éduquer jusqu'à leur majorité sociale. Donc, c'est une des solutions préventives. Il faut également faire en sorte que les enfants, parce que la plupart de ces jeunes sont des enfants qui ne sont pas à l'école, Dieu merci, avec la gratuité, je crois on va renforcer cette gratuité, la renforcer pour que les enfants se retrouvent à l'école, donc que leur instruction soit renforcée pour éviter qu'ils aient l'oisiveté. Parce que quand les enfants sont à l'école, ils rentrent, ils ont des devoirs, ils n'ont pas le temps de s'adonner à des activités illicites. Mais il y a aussi le fait d'assurer un minimum vital justement de salaire à ses parents. Tout ça, c'est dans le cadre des mesures préventives. Mais malgré les mesures préventives, il y en a qui peuvent échapper. Alors, en ce moment-là, il faut recourir à la répression, aux mesures curatives.
Draconiennes.
Oui, des mesures vraiment draconiennes du genre de celles qui étaient appliquées il y a quelque temps. Malheureusement, nos gouvernants, quand ils prennent une décision, j'ai peut-être l'impression que ça va ce qu'ils veulent faire. On a réprimé, les gens ont crié à la violation des droits de l'homme, etc. Et ils se sont tués, ils ont eu peur. Alors qu'ils devaient savoir, ils devaient planifier, ils devaient savoir. Les Kuluna là, on ne peut pas négocier avec eux. Les gens qui ont des machettes, qui sont armés de gourmets, etc. Et même il y en a qui ont des armes à feu. On ne peut pas blaguer avec eux. Il faut une répression. Parce que, vous voyez, par exemple, dans des pays européens qui veulent nous donner des leçons de démocratie, des droits de l'homme, quand il y a des terroristes, parce que les Kuluna en fait, ce sont des terroristes, on ne négocie pas avec des terroristes. Il faut les réprimer, le mettre en prison peut-être à vie. Hein? Parce que la complaisance ici est que quand on les arrête, après on les fait sortir, et ils vous menacent. Hein? Donc ils vous menacent, ils disent bon, je pars, vous allez revenir au retour, comment je vais faire. Moi, par exemple, maintenant, j'ai déjà fait une étude, j'ai déjà écrit un article sur le Kuluna. Je suis en train d'en écrire un autre pour voir leur langage, leur mode de fonctionnement, leur organisation et l'initiation au phénomène Kuluna. Ce sont des choses que je suis en train d'essayer d'étudier. Que bientôt, peut-être, je vais, si ce n'est pas possible de trouver le moyen, je vais publier un article. Malheureusement, les politiciens congolais ou les dirigeants congolais, à tous les niveaux, on ne s'intéresse pas tellement à ce que les scientifiques font. Sinon, une étude, une recherche-action trouverait des solutions et proposerait ces solutions-là au gouvernement pour éradiquer ces phénomènes. S'ils veulent l'éradiquer, effectivement, s'il n'y a pas de jeu de cache-cache où on utiliserait ces gens-là pour des besoins électoralistes ou autres, donc là, on pourrait commander une étude auprès des scientifiques et qui pourrait aider à éradiquer ce phénomène-là.
Bien, on va accueillir deux auditeurs. Hans Ndelema nous appelle de Kalemie et Joseph Mboyo de Kamina. Nous parlons du phénomène Kuluna. Hans Ndelema, bonjour. Quelle est votre question?
préoccupation, je remercie tout d'abord l'invité et je salue tous les auditeurs qui nous captent à partir de la radio Nyota Asubuhi et maintenant ici à Kalima. Ma préoccupation est je voulais seulement aider l'invité et les encourager d'aller de l'avant. Mais pour moi, la solution serait que le gouvernement crée beaucoup d'écoles professionnelles. Il faut qu'on crée les écoles pour former les enfants des jeunes âgés. Parce que beaucoup des écoles, tu peux voir celui qui a étudié la pédagogie, celui qui a étudié le scientifique, celui qui a étudié comme le commercial, il préférait seulement poursuivre l'enseignement universitaire pour travailler un jour dans un bureau. Mais quand vous créez les centres, les écoles professionnelles, qui peut inciter les gens à bien travailler lui-même, en étant lui-même responsable, en créant lui-même son emploi, par exemple la maçonnerie, la menuiserie, et ainsi de suite, la briqueterie, on peut diminuer les problèmes de chômage en République démocratique du Congo. Et vous ne verrez pas les problèmes de Kuluna là, Kinshasa.
Merci,
je sais, par exemple, ici chez moi, à Kalim,
oui.
On peut voir un licencié en agronomie qui ne dispose même pas un jardin ici chez lui à la maison.
Merci, Anse, on n'a plus beaucoup de temps.
Les gens n'ont pas de travail.
Merci, Anse, on a compris, il faut les envoyer dans les écoles professionnelles. Joseph Mboyo de Kamina, bonjour, quelle est votre question rapidement?
Bonjour Radio Kapi, merci d'avoir m'accordé la parole. Maintenant, ce phénomène de Kuluna, c'est une avis partagée. Cette responsabilité est partagée pour nous, les parents.
Bon, à ce moment, on ne parle pas des responsabilités, les solutions. Rapidement, quelles sont les solutions que vous proposez?
La solution que j'avais vous proposée, c'est ceci. Si l'État donne un ONG qui ramasse les immondices là-bas, à la rue de Kinshasa, pour nous faire engager cette Kuluna, au fin de mois, qui lui fait doter $300 comme salaire. Et cet phénomène va se terminer eux-mêmes. Pour ne pas ramasser les enfants des gens, aller avec chez Kanyamaka, c'est sans réponse. Maintenant, on ne gère pas la paix avec les discours. On gère la paix avec les choses concrètes. Effacer phénomène Kuluna avec les actes. Merci et je vous remercie.
Merci Mboyo Joseph. Professeur Adela.
Oui, en fait, la madame qui est intervenue à partir de Kalemie n'a pas tort. Hein. À nous, quand nous étions jeunes, il y avait l'orientation en cascade. C'est-à-dire que ceux qu'on étudiait, on voyait, on observait les enfants, et on observait leurs aptitudes pour voir qui était capable d'aller dans quelle filière et qui était capable d'aller dans les humanités de longue durée, jusque peut-être à l'université, et qui était apte dans tel domaine et qu'on pouvait orienter dans tel autre domaine. Donc, il y avait une orientation en cascade, ce qui fait que ce phénomène-là, en tout cas pour les gens de ma génération, on ne l'a pas connu tellement, hein, associé bien sûr à d'autres faits dont j'ai déjà parlé. Il y a l'État qui agit sur un double plan, sur le plan éducatif, sur le plan de la prévention et sur le plan, n'est-ce pas, de la répression. La répression, il n'y avait pas beaucoup de capacités, c'était très peu de cas de délinquants, notamment dans le domaine de la délinquance urbaine, il y avait très peu de cas. Donc ça, c'est une bonne idée d'orienter en cascade, parce que quand les enfants ont du travail, quand les jeunes ont du travail, je crois qu'ils ne seront pas tentés d'aller chercher autre chose que protéger leur emploi. Donc il faut la création d'emplois des jeunes. Et la création d'emplois des jeunes passe nécessairement par une formation de courte durée, notamment dans les écoles professionnelles, et madame a raison. En ce qui concerne notre compatriote de Kamina qui parle des ONG, moi je crois, les ONG, il y en a plein ici. Hein,
on peut les utiliser pour balayer les routes, ramasser les immondices et on les paye $300 par exemple, et ils vont arrêter tout de suite d'utiliser les machettes.
Moi, je ne crois pas que ce serait aussi l'argent facile. Ces $300, on va les payer pendant combien de temps? À tout moment, donc $300, on paye. Moi, je crois qu'il faut les responsabiliser, c'est-à-dire les former. Comme madame a dit là, avoir, bien sûr, on peut leur payer de l'argent. Avec cet argent, peut-être qu'ils peuvent. Il faut les aider à s'autonomiser. À s'autonomiser,
en créant leur propre petite activité. Mais il faut la formation. Si les enfants sont formés, si les jeunes sont formés, ils vont plus s'adonner à ces activités. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus tout le monde, tous les parents veulent que leurs enfants aillent à l'université, aillent dans les humanités de longue durée. Alors qu'il y a des écoles de métiers qui pratiquement n'existent presque plus. Hein. Vous voyez, maçon, c'est pas facile. Un jeune maçon, un jeune tuyeur, un jeune menuisier, c'est difficile maintenant. Les jeunes gens qui sont habitués au phénomène Corona cherchent la vie facile. Avec vie facile, ils ont question d'arracher quelques téléphones, ils vont vendre, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut effectivement des emplois de jeunes, lesquels les jeunes doivent préalablement être formés pour occuper ces emplois-là qui exigent, n'est-ce pas, qui n'exigent pas forcément des études de longue durée.
Bien, donc il faut, d'après vous, les solutions, il faut travailler sur la prévention, la situation familiale, et puis il faut des mesures draconiennes. Les envoyer faire le champ à Kanyamakassese, c'est aussi l'une des mesures.
Oui, là c'est un peu comme où est-ce qu'ils ont appris à faire le champ, ces gens-là? On va leur apprendre à faire le champ sur place, et après, parce que faire le champ c'est bien. Il faut le resocialiser. Il ne suffit pas seulement de leur donner une occupation, mais il faut aussi travailler sur leur mental. Il faut le resocialiser en refaire des êtres humains. Parce que, je vous assure, moi qui suis en train de réfléchir là-dessus, qui ai fait des recherches là-dessus, je vous assure que si c'est seulement l'argent ou si c'est seulement l'occupation physique pour avoir l'argent, ça ne va pas suffire.
Donc, professeur, pendant qu'ils sont à Kanyama, on peut envoyer les psychologues, les prêtres, les abbés, parce qu'il faut, certains disent qu'il faut aussi une prise en charge spirituelle.
Oui, il faut une prise en charge sociale, une prise en charge psychosociale. On leur enverrait, bien sûr, des psychologues, des sociologues, et peut-être le prêtre ou tous ces gens-là qui s'occupent de la religion pour les former du point de vue spirituel. Parce que, en fait, la religion aussi, d'une certaine manière, dans ce pays, a contribué à ce phénomène Corona, d'une façon indirecte, avec le phénomène enfants sorciers, ces enfants qui sont chassés de la maison et qui se retrouvent dans la rue et qui sont tentés par des consolations douteuses et qui sont attirés par le Corona.
Bien.
Il faudra aussi que la religion, les églises revoient leurs copies pour voir comment prendre en charge des enfants pareils.
Merci, professeur Adelar Kwanzaka. Je rappelle que vous êtes sociologue. Excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Au Capi Service, Alain Goy était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation et la coordination de ce programme présenté par Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.